Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, cette émission qui essaye d'empêcher de polluer, de réchauffer et de penser en rond, avec aujourd'hui à la technique Julien Chabassu et Gilles Gaillard, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestudia qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur où on remarque cette année encore, le prix Nobel de la paix est attribué à un être humain, c'est-à-dire un représentant de l'espèce la plus guerrière de la planète. Bah oui, c'est bien connu, on est tous des animaux cupides et belliqueux, etc. etc. Quand nous ne cherchons pas à nous en mettre plein les poches, changeons sur les marchés financiers, eh ben, nous nous évertuons aussi à fabriquer des armes formidables, quitte à construire dans le plus grand secret des usines d'enrichissement d'uranium. Alors qu'on l'a vu la semaine dernière, il suffit de faire le ménage au CEA de Cadarache hein, pour récolter comme ça, tranquillou, assez de plutonium pour bricoler une demi-douzaine de bombes atomiques. Ouh, ils sont des ordres à Cadarache, hein. On se demande qui fait le ménage, c'est mal rangé quand même chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ces jours-ci ? Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que malgré son palmarès des inventions guerrières, notre espèce n'est peut-être pas si méchante qu'elle en a l'air. La preuve par la paléontologie, une science qui vient de faire un grand bond en arrière, 1 million d'années environ, avec la découverte de notre nouvel ancêtre à tous, oui, même au fils de premier consul dans les Hauts-de-Seine, donc vraiment à tous, dans la famille Hardipithecus ranitus. Je vous présente Hardy. Originaire d'Éthiopie, 50 kg, 1m40 de haut et plus de 4 millions d'années au compteur. Alors a priori pas vraiment le prototype de top modèle, d'ailleurs Miss Hardy ne fait pas la couverture de Vogue ou de Femme Actuelle, mais celle du magazine Science aux États-Unis. Quelle est la particularité de notre nouvel ancêtre ? Eh bien Miss Hardy paraît fort éloignée des chimpanzés de Tanzanie, ces singes bagarreurs dont on pensait qu'ils étaient jadis nos plus proches cousins. Conclusion des spécialistes, les chimpanzés seraient les mauvais garçons d'une lignée de grands singes pacifiques et végétariens, des bad boys dont nous serions les héritiers, avec les gorilles, les bonobos, ces primates sensibles, généreux et eux tout à fait capables d'empathie. Et donc, sous cette carapace, il suffit de percer un tout petit peu pour voir que les êtres humains sont aussi sensibles peut-être que des éléphants, des chiens, des dauphins, j'en passe, et qu'on est capable d'empathie sans avoir une motivation du profit immédiat. Alors je sais, c'est difficile à croire quand on apprend ces jours-ci que quelques brebis galeuses de Wall Street, pas du tout représentatives du genre humain, ont bouloté sous forme de bonus divers 140 milliards de dollars du gâteau financé par les contribuables américains. Mais quand même, les gentils ancêtres, voyez-vous, c'est comme des prix Nobel, et ben, ça se mérite. Ronde des journalistes. Ah, beaucoup de femmes d'ailleurs. Hein. On en a trois. Oui, aujourd'hui. Et puis Hervé Kempf du Monde qui est avec nous. Alors Anne Chaon de l'AFP est présente. Nous rejoindrons Nathalie Fontrelle de France Inter. Jean-Marie Pelt sous son mirabellier du côté de la Moselle qui va jouer un petit peu le sage. Et puis nous rejoindrons Hélène Krievi-Jesner aux États-Unis et Hervé Kempf donc du Monde. J'ai un petit peu envie de partir avec vous, Anne Chaon, parce que là, dans l'actualité, on a vu donc ce conseil des ministres sous-marins aux Maldives. Récemment, des photos de gens qui étaient à poil dans les vignes, d'autres personnes qui sonnaient les réveils pour secouer nos élus. Bon, donc les citoyens ne manquent pas d'idées. Et il y en a une qui est tout à fait intéressante que vous avez relevée. Quelle est-elle, chère Anne Chaon ?
Bah vous voyez les animaux derrière les barreaux de la SPA qui vous regardent avec un air suppliant en attendant que vous les accueilliez dans votre foyer. Moi, je vous propose aujourd'hui d'adopter un négociateur pour Copenhague.
Ah oui ?
Ils n'ont ni pull ni ploie, mais ils sont plutôt en costume cravate et en général, ils ont un attaché-caisse à la main et ils ont l'air toujours très sérieux et préoccupés. Mais c'est une initiative qui a été lancée au printemps par diverses ONG qui sont toutes réunies dans le réseau Action Climat et qui font appel à des jeunes gens, en général dans la vingtaine, qui sont chargés de traquer les délégations de leurs pays respectifs. Donc tous autour de 20 ans, ils collent les semelles de leurs délégations et ils épient leur prise de position, leur prise de bec et rapportent tout sur leur blog. L'idée de départ, c'est de donner le maximum de visibilité et aussi de transparence, espère-t-il, au processus de négociation du futur accord climatique et par la même occasion d'exercer une pression civique sur les délégations. Alors, ils ont des accès extrêmement différents à leurs délégués selon les pays. Par exemple, la jeune fille qui suit les Brésiliens, elle est carrément embedded dans la délégation. Elle a le même badge que M. Machado et elle entretient très fréquent contact avec lui. Il y a des interviews régulières. Lundi, indienne aussi est bien reçue. En revanche, le Canadien, vous connaissez la position très prudente du Canada, qui espère toujours pomper le pétrole de ses sables de l'Alberta. Là, le jeune Canadien, lui, il est renvoyé dans les cordes à chaque contact. Ouais. La chinoise, elle m'expliquait que ça avait été très compliqué de nouer le contact avec la délégation chinoise. Et quand je lui ai parlé la semaine dernière, elle misait beaucoup sur une interview qu'elle doit donner à l'agence Chine Nouvelle pour faire valoir qu'elle ne voulait pas du tout leur nuire, mais au contraire qu'elle pouvait aider, contribuer à expliquer la position de la Chine. Et pour la France, eh bien, c'est un jeune homme qui s'appelle Florent Barche. C'est un étudiant de Marseille, âgé de 22 ans, et qui colle les semelles de Brice Lalonde et Paul Watkinson. Il me dit qu'il est plutôt bien reçu pour le moment, mais il reconnaît aussi qu'il veille à ne pas les fâcher avant Copenhague pour garder le contact jusqu'au bout.
Alors, on sent bien que ça va être peut-être une partie de jeu de poker, cette affaire. Si on ressort avec un texte qui fait 250 pages, ça ne va pas être possible. Donc, quels sont à la fois les craintes et les espoirs aujourd'hui, Anne Chéron?
Les 250 pages, ça y est, on en a laissé la moitié là à Bangkok. Vous savez qu'en septembre, Ivo de Bourg, qui est le secrétaire de la Convention climat, disait que le texte était tellement un tel bazar, hein, c'était son expression, que les traducteurs avaient refusé de s'y coller en disant « it's a nonsense ». Et là, après Bangkok, on se retrouve avec une centaine de pages, un agrégat de papers, de notes de travail. Donc le prochain rendez-vous à Barcelone, ça va être d'essayer d'arriver à dégraisser encore cette masse de positions diverses pour arriver à Copenhague avec quelque chose sur lequel on puisse travailler, les 5, 10 pages, 20 peut-être. Où va-t-on ? On est dans une partie de poker planétaire, comme dit le ministre brésilien. Dans une partie de poker, on voit mal les différents partenaires abattre leurs cartes à 2 mois de la fin de partie. Donc, j'aurais tendance à penser que les espoirs sont encore permis. Pas un nouveau traité. On ne va pas envoyer, dont on aurait tous rêvé, notre une sur le nouveau protocole de Copenhague. Certainement pas. Mais un accord politique qui donne déjà l'architecture des 20-40 prochaines années. Oui, pourquoi pas.
Et donc, adopter un négociateur.
Hein, c'est adopte-négociateur en anglais.org.
Oui, c'est ça.
Adopte un négociateur.
Ouais, okay. On va retrouver ça. Hervé Kempf va peut-être déjà aussi adopter un négociateur. D'abord, on va vous féliciter parce que vous allez recevoir le 23 octobre le prix du livre de l'environnement qui vous sera remis par la Maison de l'environnement de l'Isère. Il y avait quand même des gens comme Ziegler, comme Mohamed Younous, comme Jean Covici, comme Orsena pour sauver la planète, sortez du capitalisme, donc aux éditions du Seuil que vous avez écrit. Déjà 25 000 exemplaires et puis donc ça va continuer. Dans votre papier du jour dans Le Monde que l'on peut lire, là tout à l'heure je faisais effectivement allusion au prix Nobel de la paix. Vous avez votre théorie. Pourquoi effectivement Obama a reçu ce prix Nobel de la paix ?
Certainement pas pour sa politique internationale, puisque pour ce qui concerne l'Iran, il patauge. Ce qui se passe en Palestine, entre Israël et la Palestine, il n'a pas avancé d'un pouce. En Afghanistan, il est en train de s'enfoncer dans un bourbier en renvoyant des soldats sur place. Même sur les droits de l'homme, son bilan finalement est très décevant. Donc ça n'est évidemment pas pour ça que les jurés d'Oslo lui ont décerné le prix Nobel de la paix. En fait, il faut se rappeler que le prix Nobel de la paix a déjà été décerné en 2007 à Al Gore et au groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Pourquoi ? Parce que les jurés d'Oslo, les jurés du prix Nobel ont compris que ce qui se jouait derrière le changement climatique, maintenant, c'était plus seulement une question scientifique, c'était plus seulement une question de transformation environnementale, c'était plus seulement une question de réorientation de l'économie, mais qu'il y avait des enjeux très lourds en termes géostratégiques. Et pour le dire de façon la plus claire possible, eh bien, si nous laissons dériver le changement climatique, nous allons à la guerre, parce que un certain nombre de populations dans tous les coins de la planète perdront leurs ressources, verront leur ville engloutie ou gênée par les eaux, succomberont à subiront des typhons, enfin toutes sortes de ces catastrophes qui pourraient survenir, nous disent les scientifiques, si le changement climatique continue. Et donc, pour la deuxième fois, les jurés du prix Nobel ont voulu marquer le coup en disant « Monsieur Obama, l'accord de Copenhague, nous estimons qu'il est absolument essentiel pour la paix du monde, pour l'avenir de la paix du monde. Donc il faut que vous y alliez, il faut que vous sortiez du bois à cette occasion. Et donc puisque le prix, et ça ne se fait pas quand même quand on reçoit et qu'on est président américain de recevoir le prix Nobel et de ne pas y aller, donc il va aller à Oslo le 10 décembre recevoir ce prix.
Il sera obligé d'y aller.
Copenhague, c'est à peu près à 150 km d'Oslo. Ça serait vraiment désagréable de sa part, de la part de M. Obama, d'aller recevoir le prix de la paix. Et au moment où juste à côté est en train de se jouer, parce que comme Anne le rappelait, eh bien la conférence de Copenhague, c'est au même moment, exactement au même moment, le jury du prix Nobel a voulu obliger Monsieur oui. Obama à venir à Copenhague. Et s'il vient à Copenhague, il faudra qu'il fasse quelque chose. Voilà, c'est le pari qu'a fait, à mon avis. Et c'est un geste très politique de la part du jury du prix Nobel qui est important et je crois qu'ils ont raison.
Alors, on va rester aux États-Unis. On va avoir un petit décalage de 6-7 heures avec Hélène Krievi-Esner qui travaille pour Rue 89, qui est aussi donc écrivain. Et donc, Hélène, on va en profiter avec vous pour faire un petit point aussi. Vous êtes en Caroline du Nord, je le précise, pour faire donc un petit point aussi sur la politique actuelle, le climat, énergie. Peut-être tout d'abord, effectivement, quelques petites nouvelles de la crise.
Bah, écoutez, une chose est sûre, c'est que les gens consomment moins parce qu'ils n'ont plus accès au crédit. C'est une tendance générale, il y a toujours des riches, n'est-ce pas? Mais contraint et forcé, ça consomme moins. J'ai même lu un article là, il y a quelques jours là, disant que les émissions globales à effet de serre des États-Unis avaient baissé parce qu'évidemment, ça c'est comme en France, c'est comme partout. Il y a des usines qui ont fermé, il y a moins de production, donc ça baisse. Alors que ce soit volontaire ou pas volontaire, oui, les choses ont changé. Maintenant, il y a aussi des choses qui changent. Hein. Les gens, ils achètent plus de petites voitures. C'est pas qu'elles sont moins chères d'ailleurs, hein, mais il y a une vraie prise de conscience.
Climat, énergie, où en sommes-nous, Hélène, aux États-Unis?
Vous savez, pour l'instant, contrairement à l'Europe, les États-Unis n'ont pas de dispositif législatif pour limiter les gaz à effet de serre. On sait pourquoi, on se souvient. Le pays n'a jamais ratifié le protocole de Kyoto et sous le règne de George Bush, le gouvernement américain niait encore la responsabilité de l'homme dans les changements climatiques. Bon, alors, Obama s'est engagé à faire vite pour renverser la vapeur, mais il a tellement de problèmes pour faire adopter ces réformes qu'on est presque sûr d'une chose, aucune loi concernant l'énergie et le climat ne sera votée d'ici le sommet de Copenhague. Ça, c'est presque sûr. Par contre, il y a des choses de prévues. Vous voulez savoir?
Oui, dites-nous tout.
Alors, ce qui est prévu au Sénat, parce qu'il y a déjà un premier texte qui a été voté en juin par la Chambre des représentants, mais maintenant le Sénat, sinon il n'y a rien de possible. Hein. Alors, ce qui est prévu au Sénat, eh ben, le projet, ce n'est pas exactement un rêve pour les écologistes. Hein. Vous allez voir, oui. Je vous dis tout de suite pourquoi, avant de vous dire quoi. Parce que pour avoir une chance de passer, cette loi doit pouvoir être votée à la fois par la gauche, qui présente le projet, et par une partie de la droite, qui a toujours défendu et qui défend toujours d'abord les intérêts des industriels. Mmh. Alors, il y en a donc pour tous les goûts, je vais vous dire d'abord le très bien. Une réduction drastique des émissions américaines, vraiment drastique, hein, on rigole pas là, de moins 20% des émissions de CO2 en 2020 par rapport à 2005, bon, ok, hein, à moins 80% en 2050 par rapport à 1990.
Oui, là, ça fait une sacrée marche.
C'est vachement ambitieux. Hein. Oui. Bon, il y aura, comme en Europe, un échange de permis d'émission entre industriels et donc un marché du carbone. Ça, il y a des détails à régler, mais c'est plus ou moins acquis. Et puis, on va relancer le nucléaire à fond, alors vraiment à fond. Hein. L'objectif suprême des supporters de l'atome ici, c'est de faire aussi bien que la France, qui est érigée ici en modèle absolu pour son audace et l'absence de frilosité de ses citoyens. Alors, pour une fois qu'on nous admire...
Formidable.
Ouais, c'est incroyable, les articles, ils parlent de la France partout dans la presse. Hein. Bon, alors, quoi d'autre? Oui, il y a pour assurer l'indépendance énergétique des États-Unis, en plus du nucléaire, on va relancer les forages de pétrole et de gaz sur le territoire américain. Mmh. Et tant sur Terre qu'au large des côtes. Alors, ça, c'était un gros sujet pendant la campagne électorale. Globalement, la gauche, les démocrates, disaient non, pas trop, hein, mais ils ne voulaient pas se mettre à dos non plus les environnementalistes. Alors maintenant, on n'en parle plus de ça. Il faut forer. Alors évidemment, Denis, les environnementalistes américains, ils ont beau être plus réalistes qu'en France, ils ont beau se dire qu'une loi moyenne, c'est mieux que rien du tout, il y a quand même des choses qui passent mal.
Hein. Et donc, on imagine bien qu'il va y avoir des tendances qui sont en train d'exploser hein, parmi ces verts.
Ah ouais, là, en ce moment, on assiste à une sorte de psychodrame au sein du mouvement vert états-unien. Mais enfin, quand on dit vert, c'est pas un petit parti vert, c'est quand même une grosse partie des environnementalistes. C'est énorme ici. Hein, les ouvres... Mais alors, il y en a vraiment carrément qui disent et qui font des manifestations violentes, enfin pas violentes, non, visibles, très bruyantes, pour dire, eh ben vous savez quoi, nous, cette voie-là, on n'en veut pas. Mieux vaut rien du tout. Alors, c'est pas le cas... C'est pas l'avis de tout le monde. Il y en a qui disent vaut mieux commencer par petit. Là, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à Copenhague, il y aura pas de loi. Hein.
Bon. Pas encore. Merci beaucoup, Hélène Krievi-Esner. Et puis on vous retrouve prochainement dans cette émission. À bientôt, Hélène.
Au revoir, Denis.
Petite réaction, je sais pas, Hervé Kem, par exemple, du Monde.
Bah, ce que dit Hélène. Moi, j'ai été à New York pour suivre les discussions sur le climat il y a 2 ou 3 semaines. Et au passage, j'ai beaucoup discuté avec des écolos. Et c'est vrai qu'il y a toute une frange du mouvement écologiste qui, comme l'a très bien dit Hélène, qui dit ce projet de loi ne va pas, parce que c'est bien au-delà, elle l'a très bien expliqué, je ne fais finalement que paraphraser, bien au-delà de ce qu'on a en Europe, dans le mauvais sens, hélas.
Alors, on va faire un petit tour en France quand même avec vous, Anne Chéron. D'abord, je vous signale que le numéro de La Vie de cette semaine sort son palmarès palmarès 2009 de l'écologie, c'est-à-dire qu'ils ont passé les départements à l'aune des énergies renouvelables, de la qualité de l'eau, du recyclage des déchets, de la mobilisation politique, de la qualité de l'air et de l'agriculture biologique. Bon, il ressort que l'Ardèche, l'Aveyron, les Alpes-de-Haute-Provence, il n'y a pas forcément beaucoup de monde dans ces départements, mais arrivent en tête. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus, c'est donc dans le numéro de la vie de cette semaine. Si nous allons en Loire-Atlantique, on va parler un petit peu de Nantes, qui a reçu un prix, la ville de Nantes a reçu un prix, l'agglomération, Juan.
Oui, on peut parler d'un malencontreux télescopage cette semaine de la part des élus nantais, c'est-à-dire que d'une part, ils se félicitent tout à fait légitimement d'avoir reçu pour la métropole nantaise le Civitas Award, qui est un prix européen décerné par des grandes villes européennes qui récompense les efforts en termes de mobilité durable. Donc Nantes est arrivée loin devant Stockholm et Gand. Et c'est exactement la même semaine qu'on choisit 18 maires de l'agglomération nantaise, 18 sur 24, donc une grande majorité, pour nous adresser une déclaration solennelle soutenant le projet de nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un projet très controversé. D'une part, c'est sûr que les défenseurs de ce projet font valoir que pour le moment, pour se poser à Nantes-Atlantique, on survole l'agglomération. Donc là, l'idée, c'est de le délocaliser à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire à 35 km de l'agglomération nantaise, en plein bocage. Donc ça veut dire artificialiser 2000 hectares de bocage, dont la moitié d'exploitation agricole. Et évidemment, le problème de nuisances en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui n'ont pas du tout été estimées, d'augmentation du trafic automobile. Et puis, on peut quand même s'interroger sur cette schizophrénie qui consiste d'une part à préparer la négociation d'un accord mondial à Copenhague et ne pas anticiper du tout sur le devenir du transport aérien, le renchérissement du prix du pétrole et dans le même temps de préparer la construction d'un nouvel aéroport.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut appeler vraiment les psychiatres à l'aide parce qu'on en a tous besoin les uns et les autres. On rejoint dans quelques instants Nathalie Fontrelle et puis Jean-Marie Pelt, mais auparavant, un premier disque choisi par Muriel Pérez.
Can see me in the dark as if I was making sense, and what I meant is what you really heard. 'Cause baby, 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 I'll be what I wanna be, crazy as it may be, I'll die when I wanna. Lies, set me free. Lies, keep me from my fear. Lies, believe in me. Lies, heavenly shelter. Thank you for pretending that I don't cry and I don't care that my heart is made of clay, and I will keep sailing away. 'Cause baby, 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 I'll be what I wanna be, crazy as it may be, I'll die when I wanna. Lies, set me free. Lies, keep me from my fear. Lies, believe in me. Lies, heavenly shelter. Thank you for pretending that I got some skin around my bones. Thank you for pretending that I'll never, ever, ever let you go. Lies, keep me from my fear.
C'était Yodlice sur France Inter dans CO2, mon amour. Je vous signale qu'aujourd'hui, 17 et 18 octobre, aujourd'hui et demain, vous avez une journée porte ouverte aux énergies renouvelables dans une douzaine de sites en région Île-de-France et puis dans toute la France. Donc, on vous a indiqué sur le site de CO2, mon amour, ce fameux site et ce portail qui vous permettra alors de voir du solaire thermique, d'aller voir de la cogénération, de voir des bâtiments passifs, de voir que l'on peut faire un peu quand même autrement. Hein, voilà, même si les choses ne sont pas simples, même si on sait qu'aujourd'hui les énergies renouvelables c'est un peu l'épaisseur du trait, mais on ne dira pas ça dans quelques années, loin de là. Donc journée porte ouverte organisée donc par le CLER. Jean-Marie Pelt, bonjour à vous.
Bonjour à tous, bonjour Denis.
Vous êtes sous votre mirabellier qui n'a plus de feuilles, qui est en train de les perdre actuellement.
Il est en train de les perdre, oui, il y en a encore un peu.
C'est exactement ça. Une chose que vous aimez bien, c'est parler des excès du capitalisme. Alors là, on est en plein dedans parce que le livre d'Hervé Kempf que vous avez lu aussi pour sauver la planète sortie du capitaliste, eh bien, détaille très précisément les différents mécanismes.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il a le mérite d'être clair, clair aussi dans son titre et clair dans son contenu et par-dessus le marché courageux. Vous avez très rapidement évoqué tout à l'heure, Denis, les 140 milliards de bonus qui vont alimenter les traders et autres financiers cette année aux États-Unis. Nous sortons péniblement de la crise, nous payons encore la crise par le chômage, et le capitalisme, dans son extrême arrogance, est parti mieux qu'avant. Alors, je trouve ça absolument scandaleux. Je trouve que le dévoiement et la perversion de ce système de capitalisme financier qui n'a plus grand-chose à voir avec le capitalisme des pères fondateurs du XVIIe siècle est inacceptable. Et moi, je suis très étonné que dans notre pays, on ait si peu d'alternatives présentes à l'esprit lorsqu'on parle du capitalisme. Lorsqu'on lit les journaux, lorsqu'on écoute les radios, alors on nous donne l'avis des multinationales, qui rachète qui, où, à quel prix, c'est toujours des milliards de dollars qui circulent dans tous les sens. Alors, bon, nous sommes saturés de ces informations qui ne nous concernent pas directement, mais qui nous concernent indirectement parce que ça renforce le pouvoir économique mondial alors que le pouvoir politique est morcelé en 190 nations. Et moi, je trouve que c'est très dommage qu'à gauche comme à droite, on n'évoque pas l'économie solidaire, c'est-à-dire cette alternative positive au capitalisme et qui marche, que sont les innombrables mutuelles. La plupart d'entre nous sont assurés à une mutuelle d'assurance comme la Maif, la Massif, etc. Les mutuelles de santé, les coopératives, les SCOP, les ONG, les associations, tout ça, ça représente plus de 13% du PIB, plus de 2 millions d'emplois. Alors, ce sont des organismes qui marchent très bien, qui marchent dans l'économie de marché, puisqu'elles sont en concurrence avec les sociétés capitalistes, mais où il n'y a pas d'actionnaires, où il n'y a pas de dividendes, il y a la solidarité entre les sociétaires. Et moi, à mon avis, c'est l'avenir. Alors, j'ai rencontré, il y a quelques jours, le patron du Crédit Coopératif, qui est une banque, et le patron d'un organisme que j'aime bien, qui s'appelle les Jardins de Cocagne, qui développe beaucoup le bio en France dans l'économie sociale et solidaire. Et bien, j'ai été vraiment très frappé de la force de cette alternative dans sa réalité de terrain. Ce sont des gens qui sont en train, sans jamais être soutenus, sans jamais être connus, sans jamais être connus par quiconque, de créer le monde de demain. Et je crois que, comme le communisme s'est effondré en raison de ses excès et de sa non-crédibilité à terme, le capitalisme, s'il continue sur la route où il est parti, s'effondrera un jour ou l'autre de la même manière. Je le dis depuis 10-20 ans dans mes livres. C'est pourquoi Hervé Kempf et Jean-Marie, même combat.
Alors justement, Hervé Kempf, est-ce que l'on peut sortir, est-ce que l'on va sortir du jeu traditionnel des rivalités aussi entre les nations? Parce que c'est aussi un peu la clé de l'affaire. Quoi. On voit bien, il y a beaucoup de gens qui sont très en avance par rapport à nos élus et nos décideurs qui se disent, il faut qu'on invente autre chose. On sait bien qu'on avance en marchant et qu'on n'a pas une solution clé en main. Mais quand même, est-ce qu'on peut aller aussi vers plus de sobriété, vous poser la question, sans aller vers des secousses violentes? C'est tout ça, qu'on est à la croisée des chemins et ce n'est pas encore écrit.
Ben non, parce que, et Jean-Marie Pelt le rappelait très bien, le système ne veut pas changer, l'oligarchie, le groupe des personnes capitalistes qui sont aux commandes ne veulent pas changer. Et l'affaire des 140 milliards de dollars de bonus distribués à Wall Street les jours derniers est tout à fait hallucinante. Elle montre que ces gens-là qui ont provoqué par leur impéritie et leur cupidité la chute du système financier et une crise économique extrêmement grave n'ont rien compris et continuent à vouloir s'enrichir sur le dos de la société. Alors, on a un vrai problème, c'est que les alternatives existent, les possibilités de faire autrement existent, les potentialités, par exemple, Jean-Marie rappelait à très juste titre les coopératives, on voit plein de façons de faire différentes, mais on est bloqué politiquement par ce que moi j'appelle cette oligarchie. Et juste un micro-exemple de plus qui montre qu'ils ne veulent rien changer, qu'ils veulent continuer à fermer les perspectives. Eh bien, il y a deux jours, j'ai appris que le gouvernement oligarchique, les porte-parole de l'oligarchie, le gouvernement de M. Fillon et de M. Sarkozy, vient de supprimer la délégation à l'économie solidaire. Sur quel monde on vit ? Moi, je ne sais pas, avec ces gens-là.
Alors, on a de la psychologie aussi collective qui est derrière et qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'en 30 ans, donc, le capitalisme a imposé un modèle donc, individualiste de représentation. Je veux dire que le symbole, c'est le côté « parce que je le vaux bien ». Bon, et on a marginalisé les logiques qui sont collectives, parce que là, ça freine l'avancée du capitalisme aussi. Donc, c'est tout ça qu'il faut essayer de réinventer. On parle pas de collectivisme, on est bien d'accord. Non. C'est pas ça. On a complètement éclaté tout ça. Enfin,
c'est la logique coopérative. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que Jean-Marie Pelt a écrit, alors le titre m'échappe, mais il y a un ou deux ans,
la coopération.
Voilà, la coopération, tout simplement. Et il montrait de manière très claire comment, finalement, il n'y a pas que le seul modèle compétitif dans la biologie, dans l'évolution de l'espèce humaine posé et décrit par Darwin, mais qu'il y a aussi énormément de logiques coopératives dans le monde vivant. Et dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, il y a aussi des logiques coopératives extrêmement puissantes qu'il faut réalimenter. Alors, effectivement, vous avez raison de souligner qu'un enjeu essentiel, au-delà de la contestation, de la présentation des alternatives, de l'analyse des phénomènes de pouvoir, il y a aussi une conscience collective à changer, une psychologie collective à changer. Et pour le dire de manière très rapide. Ce qu'a fait le capitalisme dans sa dernière phase, dans les 30 dernières années, il a emporté la bagarre sur le plan idéologique, sur le plan de la psychologie collective, en précisément poussant l'individualisme à l'exacerbation, en nous convainquant par la publicité, par les modèles des people, par toute cette imagerie publicitaire que nous étions en quelque sorte des individus et que les seules valeurs c'était la compétition et la concurrence. Et on en a encore cet exemple dans l'histoire hallucinante qui se déroule depuis 2 ou 3 ans à France Télécom, où les gens sont mis en concurrence les uns avec les autres, sont totalement isolés. Pourquoi ils se suicident aussi ? Parce qu'ils sont isolés au lieu d'avoir des logiques de combat et de solidarité collective. Donc les individus se retournent contre eux-mêmes de l'échec face à l'échec du système. Donc un enjeu essentiel, effectivement, et ça, on est bien dans l'écologie, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Non, mais c'est ce que j'ai dit.
On est totalement dans l'écologie, c'est refaire coopération, refaire du vivre ensemble, retrouver du bien commun et de l'intérêt général pour rendre possible le monde que nous voulons, qui sera un monde en accord avec la biosphère, avec la nature, avec les ressources naturelles, mais qui sera aussi un accord, un monde de justice sociale et de paix entre les individus et entre les nations.
Parce qu'on est en plein dans le sujet, là aussi, Jean-Marie Pelt, c'est-à-dire quel monde de demain, quelle économie de demain obligatoirement moins prédatrice, puisque jusqu'à présent, on s'est foutu complètement de la nature merveilleusement, donc on essaie de lui donner un prix aujourd'hui pour essayer d'améliorer un petit peu les choses, et en tout cas de les faire comprendre à l'aune de l'économie, mais de ne pas être déconnecté de cette fameuse nature, Jean-Marie.
Oui, on est obligé aujourd'hui d'envisager de donner un prix à la nature parce que dans le monde de l'économie, qui est une discipline, j'allais dire scientifique si l'on veut, mais en tout cas une discipline dominante dans le monde dans lequel nous vivons, tout ce qui n'a pas de prix ne vaut rien. La nature étant censée avoir des ressources illimitées, n'est donc pas rare, et comme il n'y a pas de rareté, il n'y a pas de valeur, et comme il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de coût, comme il n'y a pas de coût, il n'y a pas de prix, donc on peut y aller carrément. Et dans le livre que je prépare et qui s'appellera, je pense, « Ou services gratuits ou les dons gratuits de la nature », on n'a pas encore le titre, oui. Qui va sortir et dont vous êtes, cher Denis, un co-auteur.
Oui, bon, enfin faible, mais quand même, un tout petit peu. Voilà,
oui. Alors, j'essaie de montrer comment la nature vaut beaucoup. Elle vaut tellement que sans elle, on ne pourrait pas vivre. Vous prenez un jeune, il est pour la nature à fond, tous les jeunes sont pour l'écologie, c'est très frappant. Mais la nature, souvent, en ville en particulier, il la voit sur un écran. Et il pense que s'il n'avait pas l'écran, ben, il périrait, parce qu'il est complètement structuré par la technologie. Et donc, on n'a pas cette idée que l'on ne peut pas vivre sans la nature, qu'elle est notre assurance-vie, comme on dit maintenant dans le monde de la biodiversité.
En tout cas, pour reprendre l'idée de coopération, une grande mutuelle.
Une immense mutuelle. Et dans une étude récente, un sondage tout à fait récent sur les valeurs des Français pour relayer ce que venait de dire tout à l'heure Hervé, il apparaît que pour la première fois, ce sondage est récurrent tous les 9 ans depuis déjà 1981 ou 2, je crois, pour la première fois, les Français considèrent que l'égalité est plus importante à leurs yeux que la liberté. Ils rejoignent ainsi une intuition très ancienne de Tocqueville, parce que les Français ont été tellement effarés des excès du capitalisme qui sont pour le coup apparus à la télé, donc que tout le monde a vu et tout le monde a bien compris de quoi il retourne, qu'ils considèrent que l'effort en vue de plus d'égalité doit être maintenant primordial. Alors l'égalité, c'est pas l'égalitarisme, il n'y a pas d'égalité dans le sens, disons, métaphysique du terme, mais l'équité, aller vers plus d'équité. Et aller vers plus d'équité, eh bien, c'est faire qu'il n'y ait pas 140 milliards de dollars qui tombent dans la poche des financiers et autres traders. Et si j'étais, parce que Dieu merci, je ne suis pas un chef d'État, voyant de tels chiffres, je ferai une très grande colère, parce que tout de même, c'est là qu'on voit qu'on a beau faire le G20, des réunions à répétition, des concertations, des déclarations, de la communication, ben ça sert à rien. Ça sert à rien parce que le capitalisme a aussi cette caractéristique d'être extrêmement arrogant. C'est le monde de l'égoïsme, c'est d'ailleurs sa doctrine et sa devise, c'est le monde du chacun pour soi. Et les financiers de Wall Street s'en fichent éperdument.
Alors ça, c'est
les gens du G20.
Oui, et ça, c'est quelque chose évidemment que peut voir aussi. Alors avec une autre dimension qui n'a rien à voir, Nathalie Frontrel, que l'on va rejoindre, elle non pas au pied de son mirabellier, mais au pied de son cheval où elle récupère ses merveilleuses fientes qui permettent d'ensemencer son potager bio. Bonjour Nathalie Frontrel.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors, vous êtes en plein automne, là, donc c'est très bien. Là, vous faites
tout mon tilleul.
Oui, bah bien. Bah écoutez, c'est parfait. Vous nous préparez donc un petit tilleul pour ce soir, ce sera formidable. Donc, on a entendu vos reportages à la fois dans Et pourtant elle tourne chez Jean-Marc Four le matin sur Inter. Vous êtes allé au Tchad. Bon, grande claque une fois de plus. On est dans les médias, on le sait, avec ce côté mort kilomètre, comme on dit. Mais aujourd'hui, 1 milliard de personnes crèvent de faim quand même, ou alors sont vraiment au seuil de cette faim dans le monde. C'est incroyable. Ça dépasse complètement l'entendement, cette affaire-là.
Oui, en fait, le changement climatique, c'est vraiment une réalité hein, pour les populations qui sont déjà soumises à des conditions naturelles qui étaient de tout temps, depuis des décennies, des siècles, voire difficiles. On le sait, hein, dès 1992, les scientifiques ont dit « aïe, 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 attention, dans les pays qui subissent des sécheresses, ça va être encore pire. Dans les pays qui subissent des inondations, ça va être encore pire. » Et on sait aujourd'hui que 26 millions de personnes ont déjà été déplacées et que 200 millions de personnes par an devraient être obligées de quitter leur pays parce qu'ils ne peuvent plus y vivre d'ici 2015. Et ce qui se passe au Tchad, ce que j'ai pu constater, c'est que, c'est le cas au Tchad, mais c'est le cas dans la majorité des pays d'Afrique, le changement climatique contracte les saisons. La saison des pluies est beaucoup plus courte, il pleut moins, mais surtout, elle est décalée dans le temps. Et les agriculteurs n'arrivent pas à s'adapter, parce qu'ils n'ont pas les semences à cycle court, c'est-à-dire des semences qui sont capables de germer, de pousser très vite et d'arriver à maturité. Ces semences permettraient de produire normalement. Dans l'est du Tchad, d'où je reviens, ils ont 3 mois de provisions. Vous imaginez qu'en janvier, ils n'ont plus rien à manger. Et même dans le désert, ce qui est hallucinant, c'est qu'on vous parle du changement climatique. On vous parle des gaz à effet de serre et on vous dit « Ah oui, on a bien compris. Non, on ne va pas vous demander de vous passer de vos voitures, vous en avez besoin, on le sait bien. Juste, il faudrait nous aider. Nous aider, ça veut dire 150 milliards de dollars par an pour faire face. C'est une des choses qui sera discutée à Copenhague. 150 milliards de dollars par an. Je vous entendais là répéter plusieurs fois ce chiffre. 140 milliards de bonus pour les traders. Vous l'avez dit Jean-Marie Pell, j'ai entendu aussi Hervé Kempf le dire. 140 milliards de bonus pour les traders. Et là, il faudrait 150 milliards de dollars par an pour les aider à s'adapter, tout simplement.
Merci Nathalie Hervé-Kempf. On peut faire un lien aussi avec le Burkina Faso, qui, comme on le sait, ne sont pas exactement des gens qui balancent des gaz à effet de serre à profusion. Ça veut dire vraiment le pays qui en envoie évidemment le moins par rapport aux 80 tonnes des pays arabes ou bien 20 tonnes des Américains. Là, on a un lien parce que vous avez été aussi sur place et il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas en fait parce que ça ne fait peut-être pas assez de bruit.
Oui, c'est typique de l'information à bas bruit qui passe sous le radar. Mais ce qui s'est passé, c'est que le 1er septembre, il y a eu une pluie diluvienne à Ouagadougou, qui est donc la capitale du Burkina Faso. En 10 heures, il est tombé la moitié autant de pluie qu'en un an normalement, donc quand même énormément. Il y a eu des inondations partout. Et comme beaucoup de maisons sont construites en banco, le banco c'est de la terre cuite, mais peu solide, les gens ne savent pas toujours très bien construire, il n'y a pas de ciment dedans, donc il y a énormément de maisons qui se sont écroulées, si bien qu'il y avait 150 000 sinistrés sur une population de 1,5 million de personnes sur Ouagadougou. Et j'y étais la semaine dernière, il y avait encore 50 000 personnes qui n'avaient pas trouvé de logement. Les autres étaient chez des amis ou ailleurs. Et puis, on installait des tentes, ici et là, au milieu de la ville, des tentes blanches offertes par diverses ONG. Et ces 50 000 personnes vont se trouver pendant plusieurs semestres dans cette difficulté.
Anne Chaon.
Non, ce qui me paraît important à rappeler, à 2 mois de Copenhague, c'est qu'au-delà du débat d'experts sur combien de gigatonnes dans l'atmosphère et de ppm, de parties par million, et combien on met sur la table, et combien chacun fait quoi, le cœur du problème, si on replace l'homme au cœur de ce débat, c'est de savoir quelle capacité on donnera ou pas au peuple demain à continuer de vivre et de travailler sur la terre sur laquelle ils sont nés et dont ils ont hérité de leur famille. C'est vraiment ça. Donc c'est non seulement une aide à l'adaptation, parce que malheureusement le changement climatique est déjà en cours et déjà visible. Donc là où l'eau monte, par exemple, on parlait des Maldives en début d'émission, il faut arriver à protéger les populations, mais il faut les aider également à se développer sans attenter à leur tour au climat. C'est une population qui revendique légitimement le droit à se développer. Que peut-on faire pour les aider à prendre un modèle de développement qui soit moins nuisible que celui qu'on a suivi jusqu'à présent?
Alors, je vous propose d'écouter Au Petit Bonheur, parce que là, ils vont chanter une aspiration à la fois individuelle et collective.
Gîte rural, tiens. Voilà un métier d'avenir pour les agriculteurs. La PAC, ça fait 40 ans que ça dure. Et ça fait 40 ans que les petits sont bouffés.
C'est très bien, chérie.
Bientôt, pour élever des vaches, il faudra faire l'école hôtelière.
Allez, on y va.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Je suis resté qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite. Et dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jet et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je lui salais dans ma mémoire, je lui salais, je lui salais. La citadelle, je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpins. Je lis soleil, je lis soleil, je lis soleil, je lis soleil. Ah, 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 ah. Je lis soleil, tu sais, allez, joue.
Au petit bonheur, je veux du soleil sur France Inter, ronde des journalistes et aussi avec Jean-Marie Pelt aujourd'hui. Alors peut-être qu'on n'est pas forcément ce que disait Hervé Kempf, dit parfois, tu as vu, on est un peu plus direct, etc. Enfin bon, là on a des sujets, mais c'est comme ça. Mais c'est peut-être aussi le reflet, avec cette gravité quand même, de ce qui va se passer à Copenhague. On n'aura pas tous, on le sait très bien, mais quand même, c'est-à-dire que là, on est quand même une espèce de bascule. C'est-à-dire, c'est quand même un rendez-vous, c'est l'après-Kyoto, donc, et puis il faut vraiment s'y mettre sérieusement. Alors tout le monde en est conscient, mais chacun se retient, quoi. Il y a un côté, je suis dans ma tranchée, je garde ma position, et puis comment ça va se dérouler. On va parler un petit peu de déchets. Alors, on va en avoir peut-être de deux sortes. Jean-Marie Pelt, quand on parle de sable bitumineux, quelle est votre réaction? C'est une belle chose, le sable bitumineux. Vous n'en avez pas en Moselle, vous avez de la chance.
Non, c'est en Alberta, à l'ouest du Canada. C'est évidemment... Un des épicentres du scandale écologique sur la Terre, puisque on a dévasté déjà 3000 km² de forêt. Bon, ça ne serait pas encore trop grave, parce que la forêt boréale est immense, on le sait bien. Mais pour sortir un pétrole visqueux qui est mélangé à des schistes, à du sable, il faut beaucoup de chaleur, beaucoup d'eau pour sortir ce pétrole. C'est un pétrole qui coûte autant d'énergie pour le sortir qu'il en produit quand on le brûle. Donc c'est une sorte de non-sens écologique. Je trouve effarant ce projet de l'Alberta auquel j'ai constaté que les Canadiens tenaient beaucoup, pas tous, parce qu'il y a des Verts aussi au Canada, mais auquel ils tenaient beaucoup. Je voudrais enchaîner sur le propos de...
Juste un petit rappel, juste Jean-Marie, oui. On va quand même rappeler que Total donc, a mis 8 milliards dans, oui, dans cette affaire-là.
Oui,
sur une dizaine, oui, d'années, ils ont l'intention d'en mettre 10 et afin, à terme, d'arriver à peu près à un petit 10% de la production de pétrole mondiale. Donc, c'est pas une mince affaire. Ça se passe dans l'Alberta, ça se passe au Venezuela, ça va se passer aussi demain à Madagascar. Il n'y a pas 50 endroits qui sont comme ça. C'est quand même, il faut lire, un des pétroles les plus dégueulasses à sortir, quoi. Vraiment, c'est ça. Voilà, non, mais c'était ça aussi qu'il fallait juste rappeler.
Si l'après-pétrole, c'est en effet ça, avec ce type de pétrole et des centrales nucléaires aussi nombreuses qu'en France, aux États-Unis, alors là, on peut faire une prévision, on va la faire ensemble, on retient la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous disons que si nous faisons du tout nucléaire sur toute la Terre, à la fin du siècle, on aura bousillé toute la Terre, il y aura de la radioactivité partout, exactement comme aujourd'hui on a bousillé l'atmosphère avec les gaz à effet de serre. Ça sera exactement la même chose parce que le nucléaire est une énergie sale, dangereuse et non maîtrisée à terme. Je voulais rebondir sur un propos qui m'a beaucoup touché parce que nous sommes dans l'actualité la plus immédiate d'Hervé concernant la catastrophe pluviométrique au Burkina mais aussi au Niger. Où effectivement, il a plu comme plus personne se souvenait que c'était jamais arrivé, mais il y a une bonne nouvelle au Burkina. Figurez-vous que s'est achevé il y a quelques jours un congrès de 500 Africains qui ont travaillé ensemble en présence seulement de 4 Blancs, c'est très important ce petit détail, sur les ressources de leur flore en ce qui concerne la thérapeutique. Nous avons formé beaucoup de ces Africains à l'Institut européen d'écologie à Metz. Ils ont pris cette affaire en main et ils développent des méthodes thérapeutiques et aussi des productions de médicaments chez eux. Ils échappent ainsi à la mainmise des grandes multinationales qui voient ça évidemment d'un très mauvais œil, mais ça montre leur capacité d'auto-organisation. Ils sont tout à fait capables de faire autrement eux-mêmes, mais il ne faut pas que l'on les considère comme étant les derniers de la classe. C'est une vision totalement fausse. Et j'ai été aussi très frappé en lisant, je crois que c'est dans Le Monde d'ailleurs, je ne sais plus, en lisant que les Africains commencent à se poser des questions sur l'envahissement de leur continent par la Chine. Comme s'il ressentait l'apparition d'un néocolonialisme extrêmement prédateur de leurs ressources, de leurs richesses minières, de leurs ressources agricoles. Et il commence à y avoir des voies autorisées à l'Union africaine pour remettre en cause cette arrivée massive des Chinois sur le continent africain. Alors on sait que quand les Chinois arrivent, il n'y a pas de considération de droits de l'homme, il n'y a pas de considération environnementale, écologique, il n'y a pas de considération sociale. j'allais dire, excusez-moi, ils y vont carrément. Et tout ça est à mettre au crédit d'une Afrique qui peut-être se réveillera et saura nous donner à nous, cette fois-ci, des leçons de développement durable.
Je tiens à préciser que vous serez dans le très bon festival du film Nature de l'environnement qui commence aujourd'hui et jusqu'au 23 octobre, jeudi soir. Vous serez à Mur-Érigné.
Oui.
5500 habitants, Philippe Baudard et son maire, et donc on est dans le Maine-et-Loire à côté d'Angers. Donc là aussi, il y a tout un combat très intéressant parce qu'il y a des choses qui évoluent vraiment localement. Et donc il y a ce point d'orgue tous les ans qui est le Festival du film Nature de l'environnement Mur-Érigné. Donc vous y serez jeudi soir. Et Nathalie Fontrelle, elle regarde sa poubelle aussi là où elle est. Elle se dit, mais j'ai envie de la faire diminuer. Alors je compte sur les sénateurs et le Grenelle 2 pour y arriver.
Ouais, vous vous souvenez du Grenelle 2?
Oui.
On l'a presque oublié, hein, et puis c'est vrai qu'on est tellement occupé ailleurs qu'on n'a pas vraiment regardé ce qui se passait. La loi est passée en première lecture au Sénat et les sénateurs ont adopté 4 amendements. Vous comptez avec moi ?
On y va.
Allez, numéro 1.
C'est parti.
Le consommateur pourra laisser ses emballages et ses suremballages dans les magasins. Ça veut dire vous faites vos courses, vous achetez, j'en sais rien, un téléviseur. Puis vous constatez qu'il est emballé dans du film plastique, puis du carton, puis du carton, puis je sais pas quoi. Vous videz tout et vous laissez ça sur place. Mmh. Deux, obligation de recycler les meubles. Donc ça signifie qu'il faudra effectivement créer une éco-contribution. Ça veut dire que quand vous achetez un meuble, et bien vous allez payer une éco-contribution pour participer à son recyclage. Trois, il y aura une information dans les rayons sur les produits les plus écolos. Aujourd'hui, vous pouvez voir par exemple... Je ne sais pas, souvent c'est écrit « premier prix ». Eh bien là, vous verrez, ce produit génère peu de déchets. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une mini-dose, parce que c'est un pot de confiture, par exemple, familial, etc. 4. Le fameux point vert. En réalité, tout le monde pense que s'il y a le point vert sur un emballage, ça veut dire que fatalement, l'emballage est recyclé. Or, c'est faux. Ça veut dire qu'en fait, l'industriel qui met l'emballage sur le marché cotise pour son recyclage, mais tout n'est pas recyclable. Donc le point vert serait assorti d'une précision. Pour le film plastique, par exemple, vous savez, les barquettes, là, eh ben, c'est pas recyclé. Donc ce sera écrit, c'est pas recyclé. En revanche, pour la bouteille en verre, eh bien, il sera écrit recyclé. Alors ces amendements, on peut les trouver formidables, et je pense qu'ils le sont. Après, on sait que le texte va aller à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas ? Et que probablement ils seront retoqués à l'Assemblée nationale parce que la grande distribution a déjà fait savoir que c'est pas possible, dans les magasins il n'y a pas de place. Où est-ce que vous voulez qu'on mette des conteneurs pour récupérer les emballages? C'est juste pas possible.
Jérôme Bédier, patron de la grande distribution, a quelques entrées, me semble-t-il.
Je ne l'ai pas dit, c'est vous qui l'avez dit. Donc sachez tout de même que les lobbies sont en œuvre et que ces amendements, a priori, seront évidemment retoqués à l'Assemblée nationale. Mais c'est bien dommage au moment où, en plus, le gouvernement vient de lancer une nouvelle campagne sur la réduction des déchets.
Voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, petit rappel, hein, il me semble que dans nos poubelles aux uns et aux autres, on a 30% à peu près d'emballage, 30-35, c'est à peu près ça, Nathalie, hein ?
Oui, c'est à peu près ça, oui. Ouais. Et souvenez-vous, bah oui, mais parce qu'évidemment, aujourd'hui, alors après, c'est la société aussi qui fait ça.
Bien sûr,
que, on vit dans une société où les familles sont de plus en plus petites, les célibataires de plus en plus nombreux.
J'en
donc
divorce,
on achète
tout ça,
des barquettes, des mini-doses, des... voilà.
Bon. Alors ce que je vous propose avec Anne Chaon, c'est de déballer nos sushis. Je dis bien pas nos soucis, mais nos sushis. Alors, quelles sont les nouvelles sur le fond du sushi ?
Je pense qu'on a sauvé le sushi cette semaine. Pour le thon, c'est moins sûr, mais là, le sushi a encore quelques beaux jours devant lui. Je vais vous raconter l'histoire. Vous vous souvenez peut-être, c'était au cœur de l'été, le 16 juillet, dans l'enthousiasme du Grenelle de la mer. Nicolas Sarkozy, au Havre, annonçait que la France allait défendre l'inscription du thon de Méditerranée à l'annexe, précisez pas laquelle, de la CITES, qui est la convention internationale qui régit le commerce des espèces sauvages, de façon à en interdire le commerce. Alors, interdire le commerce d'une espèce sauvage, ça veut dire inscrire cette espèce à l'annexe 1. Le président ne le précisait pas, mais ça allait de soi. Et pour ce faire, il avait jusque ce mercredi 14 octobre minuit pour déposer une soumission au secrétariat de la CITES. Et j'ai passé presque ma nuit au chevet du thon à bord de la CITES. Et mercredi minuit moins 5 et jeudi minuit 5, eh bien, la France ne s'était toujours pas manifestée. Et en réalité, à ce jour, il reste Monaco tout seul dans sa petite barque pour réclamer à la convention de la CITES qui se réunira en mars à Doha le classement du thon comme espèce particulièrement menacée dont le commerce international serait interdit. Alors, quand on rappelle au gouvernement français, à l'État français, ces engagements qui datent quand même il y a que 4 mois, ils ont miraculeusement eu entre les mains, depuis cette annonce, un nouvel avis scientifique qui dit qu'en fait, le thon va pas si mal. Et que donc, il n'y a pas urgence à en suspendre le commerce international, qu'on pourrait peut-être se contenter d'un moratoire, c'est-à-dire une inscription à l'annexe 2 de la Convention, un moratoire de fait sur 2 ans, et de limiter les captures. Et donc, voilà, que ce serait la nouvelle position française. Alors, retour Monsieur. À la CITES. Et vous avez une demande de soumission de la France pour une inscription du thon à l'annexe 2 ? Non. Le seul pays qui s'est manifesté à ce jour sur le thon, c'est Monaco. Il y a 2 jours, c'est-à-dire vraiment à la 25e heure, l'administration américaine a dit qu'elle allait soutenir la position de Monaco, mais elle s'est bien gardée de co-parrainer ce projet de résolution. Ce qui fait que Monaco va être seul face à 170 pays à Doha pour défendre sa position. Donc je pense qu'on va continuer de manger des sushis. Je vais juste quand même vous rappeler le prix du sushi. C'est qu'en 50 ans en Méditerranée, les stocks de thon ont été épuisés aux 2/3 et à plus de 80% en Atlantique sur les 30 dernières années. Bon appétit.
Merci beaucoup. Les pirates somaliens là, qui agressent nos bateaux et nos thoniers, ce n'est pas des écologistes.
Personne n'avait vu venir que le pirate somalien vise justement à empêcher les thoniers occidentaux, notamment français, venir pêcher dans leurs eaux parce qu'ils ont le souci du thon. Voilà. De la même façon qu'ils protestent contre le fait que les pays occidentaux viennent déverser leurs déchets dans leurs eaux nationales.
C'est ça, c'est un éclairage que nous n'avions pas. Hervé Kem, pour finir, je ne vais pas vous lancer sur Jean Gadret, parce que sur votre site Reporter, alors ce site, il est donc aussi sur le site de CO de Mon Amour. On va de site en site, mais c'est comme ça, on fait des petits, qui a écrit « Pourquoi suis-je objecteur de croissance ?» C'est peut-être un peu compliqué en 1 minute 15, mais voilà, donc...
Je crois que tu allais me lancer sur la libellule.
Allez, alors, d'accord.
Hein, allez, une bonne nouvelle.
Alors, on y va, la libellule de
Franche-Comté. On veut bien parler d'objection de croissance.
Non, mais c'est bon, de toute façon, on y reviendra, quoi qu'il
ouais, ouais,
alors
ouais.
La libellule, bonne nouvelle de Franche-Comté. Allons-y.
Oui. On est objecteur de croissance, mais quand même une bonne nouvelle dans cette ambiance un peu triste. Anne, Nathalie, Jean-Marie,
oui,
Denis,
accrochez-vous.
Il y a quand même des bonnes nouvelles. Et Hélène, aux États-Unis, on a trouvé la déesse précieuse. On l'a retrouvée. C'était une libellule. Alors, ma science entomologique est nulle, hein, je l'avoue. Donc, je n'ai lu que ce que nous apprend l'OPIE de Franche-Comté, l'Office d'entomologie. Et donc, après 133 ans d'éclipse, une libellule rare et menacée est redécouverte en France. Ça s'est passé dans le Jura, dans une tourbière du Jura. Et c'est un héros anonyme, un entomologue amateur qui a trouvé cette déesse précieuse dont le nom scientifique est Nea Lenia speciosa. Et qui était justement sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. Et bien, cette libellule extrêmement rare existe en France, vit, espérons que ça durera. Et alors, une colle pour finir. Savez-vous qu'il y a en France une société française d'odonatologie ?
Pas du tout.
Et vous savez évidemment ce que c'est que
le dodo, mais pas
l'odonatologie.
Ah, pardon, oui.
Ben, ma science est absolument toute fraîche, mais c'est l'étude d'un ordre d'insectes à corps allongé doté de 2 paires d'ailes membraneuses généralement transparentes. Et ces odonates, ce sont en fait des libellules.
Et derrière, il y a des femmes et des hommes qui les étudient. Merci beaucoup donc pour cette bonne nouvelle et merci donc à vous tous, à Julien Chabassu, à Gilles Gaillard à la technique, à Marion Lelay, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, et Xavier Pestugia qui réalise cette émission, sans oublier Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO de Mon Amour.